Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Eva Ferenczi, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Céline Guéribi. La gourmandise de ce matin, c'est une curiosité entre bande dessinée et livre illustré, paru en 2015 aux Soignées éditions ici même, Aventure sur une île déserte du polonais Maciej Sieniczek. Un narrateur pense à une comète qui explose, puis trouve un manuscrit et embarque sur un paquebot qui fait naufrage. Mais bon, cette ébauche d'intrigue ne vous renseignera absolument pas sur cet étrange ouvrage au glissement surréaliste, puisqu'il s'agit surtout d'une accumulation d'histoires teintées d'absurdes oniriques et sans rapport entre elles. Des gens aux cheveux couleur peau et à l'anatomie louche et molle se racontent des souvenirs, dans lesquels on croise indifféremment des jets d'eau se transformant en singes boxeurs, un homme recouvert de toast, un visage en mousse, quelqu'un qui se coupe des doigts pour sortir de l'ordinaire, ou une grand-mère, persuadée qu'un homme surgit régulièrement de derrière les toilettes pour lui enduire le visage de peinture dorée. Nous mettrons les références sur le bienveillant site de l'émission. Titulaire d'une licence de sciences physiques et se destinant initialement au professorat, notre apothicaire de l'âme fait ses débuts dans la bande dessinée dans le périodique Psychopathe et rencontre son premier éditeur au Festival d'Angoulême en 2004, où il flânait avec une dizaine de pages sous le bras. Excellent dans le genre du non-sens, celui qui se verra confier les reprises des scénarios d'Achille Talon et de Galluron, publie depuis de nombreux albums dont les titres comprennent parfois le mot « steak ». En 2006, paraît son premier roman chez Gallimard Figurec, et en 2015, je me permets une ellipse conséquente, sort l'album qui lui apporte ce que Cioran redoutait le plus, le succès. L'album qui est d'un absurde jubilatoire, c'est Zaï 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 aux éditions Six Pieds Sous Terre, éditions qui ont aussi permis l'existence d'un pastiche de romans photos sans photos absolument hilarant et que je recommande sans réserve. Et si l'amour s'était aimé. Bonjour Fabrice Caro.
Bonjour.
Alors pour que les auditeurs ne soient pas perdus, je précise que votre nom avec lequel vous signez vos bandes dessinées, c'est Fab Caro. Uh-huh. Et le roman, c'est Fabrice Caro, puisque vous vous appelez Fabrice Caro. Donc je vais osciller entre les deux pendant toute l'émission.
Ouais, les deux vont bien, c'est parfait.
Ouais. Ça vous va ?
Oui, parfait.
Super. Alors première question obligatoire, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Un rapport plutôt sain, enfin sain, ça ne veut rien dire, mais plutôt positif. Enfin, pour moi, la mélancolie, c'est un truc... J'ai toujours un fond mélancolique en moi. Je vis avec ça et ça m'est même nécessaire en fait. Ben, la mélancolie, ça va, ça vient. Il y a des jours où je suis moins mélancolique et je vais presque jusqu'à aller la chercher, la titiller un petit peu. Enfin, c'est un petit peu maso dit comme ça, mais quand je me sens pas assez mélancolique, je sais pas, je me sens comme un petit peu creux, comme une coquille vide un petit peu. Ça me manque. Alors c'est, ouais, c'est un équilibre à trouver, une espèce de truc à doser comme ça.
Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous allez écouter des chansons tristes ?
Ouais, voilà, les chansons. Il y a pas mal de trucs qui me procurent des émotions. Il y a le cinéma, il y a la littérature. Mais le truc le plus efficace, ouais, c'est la chanson, quoi. Une chanson en 3 minutes, ça peut vous faire basculer, même pas 3 minutes, en 10 secondes, en 2 mesures. On peut soit s'effondrer à genoux en larmes, soit sauter à poil sur la table. Enfin, c'est vraiment, ça peut procurer
des
trucs
super... Ou
les deux à la fois, ouais. Ça peut procurer des trucs super puissants. Il faut arriver à trouver le dosage, en fait.
Mais vous fuyez jamais, en tout cas, la tristesse ?
Non, enfin, la tristesse, c'est autre chose. Enfin, c'est un dosage... Ben, c'est un petit peu comme le... Oh là là, non, il y a un exemple pourri qui me vient. Mais bon, c'est comme les diabétiques qui, tous les jours, ajustent leur taux de glycémie, c'est ça ? Il faut pas qu'il y ait trop de glycémie, il faut qu'il y en ait juste ce qu'il faut. Et pour moi, la mélancolie, c'est un petit peu ça, quoi. C'est ma glycémie à moi, la mélancolie. Il faut pas qu'il y en ait trop parce que ça peut tourner vers quelque chose de plus lourd, de plus sombre, ouais, de la tristesse. Faut pas avoir un fond dépressif, en fait.
Vous n'avez pas un fond dépressif?
Non, je suis plutôt gay, moi, je suis plutôt heureux. C'est pour ça que je peux me permettre d'aller faire un petit peu le maso, aller me titiller. De temps en temps, je vais chercher des chansons qui me tirent des larmes, même.
Que dans vos ouvrages, qui sont vraiment très drôles avec cet humour absurde, il y a aussi une certaine noirceur dans le fond.
Ouais, j'ai un fond un petit peu noir, mais je crois que je passe pas une journée sans penser à la maladie, au cancer, à la mort. Donc j'ai toujours ce fond-là, mais par réaction, je crois que l'outil, c'est de tout tourner en dérision, en fait.
On va la retrouver dans vos remèdes, cette dérision. Dans quelques instants, Fab Caro, vous allez convoquer Un Monde Sans Pitié, Jean-Louis Trintignant, des projets, des vides-greniers, la nature, des cartes postales, des cigarettes, Grégoire Bouillet, Sioran, Jean Carmet, The Strokes, Vanessa Paradis et Benjamin Biolay, et le musicien et artiste Christian Marclay, juste après Reggie Snow, Aminé et Dana Williams, Egyptian Lover, L-U-V-R.
Just like all the sorrow, like there's no tomorrow, 'cause tonight might be your last. So stay up till sunrise, wipe the tears from your eyes, leave it in the past. The past, the past, the past, the past, leave it in the past. The past, the past, the past, the past, leave it in the past.
Breakdancing boogie, my love. This is 1971. I crave that brain and that flesh. Cups of tea and gums that bleed red. Say you wrap the plastic in white. Say you single all of my life. Blackest skin disfigure my crimes. Credit cards and losing my mind. Piece by piece they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out Whitney. I can't cry for those who ain't with me. I can't praise the Lord, please forgive me. Pink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching.
I want to stay forever. I want to stay
forever.
I want to stay forever. I want to stay forever. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.
Ring, ring, I'm trying to get my old thing back. True. But baby, I always wanna bring up shit from the past. Yeah. Whoa, our options are limitless. Putting in effort for the effort is too effortless. Whoa, fuck check, see the necklace. Gold hit the lips every time that I'm hitting it. Huh, I told her baby I'm sorry. But if you think we got problems, then baby watch Mari. Yeah, that's why you gotta smell the roses. We parted ways like she cheated with Moses. That's fucked up, but a lot of things are. In Hollywood, but I never see stars. Do anything for you, that's love. Go anywhere for you, that's love. Might even kill for you, that's love. And if you're still tripping, that's drugs.
Just like a cup of sorrow, like there's no tomorrow, 'cause tonight might be your last. So stay up till
sunrise.
Wipe the tears from your eyes. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de l'auteur et dessinateur de bande dessinée Fab Caro, alias Fabrice Caro.
Pourquoi est-ce que vous me faites chier ?
Quoi ?
Ça vous amuse de faire chier le monde, hein ? C'est ça ?
Eh, hey, dis donc toi, t'as une grande gueule, tu vas vite la fermer, hein ?
Quoi, je vais la fermer, putain ? J'en ai ras le cul, moi, de me faire arrêter ! J'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai une bagnole pourrie ! Regardez la porte là! Elle t'ouvre pas la porte, je suis obligé de passer par derrière comme un con, putain, je me fais arrêter toutes les 10 minutes! Mais merde, c'est pas nous les bandits! Nous on est des nuls, putain! Laissez-nous tranquille 5 minutes! On en chie assez comme ça, putain, merde!
Ok, ok! Bon, allez, allez, ça va!
On entend la voix d'Hippolyte Girardot, qui est d'ailleurs un de nos confrères, puisqu'on le retrouve régulièrement dans la bande de Charline Vonnenacker et Alex Vizorek dans l'émission Par Jupiter, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Et voilà pour la réclame. Là, on entend un film de 1989, Un Monde Sans Pitié, de l'actuel showrunner de la série d'espionnage Le Bureau des Légendes, Éric Rochant, qui co-signe à 28 ans le scénario du film avec Arnaud Desplechin. Alors, le film succès à sa sortie, ça montre une jeunesse désabusée, le vide existentiel, la douleur amoureuse, la violence des rapports humains. Pourquoi ce choix, Fabrice Caro?
Ben, en fait, il est sorti fin des années 80, et moi j'étais à la fac. Ça part d'une petite histoire, c'est que j'avais, à la fac, j'avais une voiture toute pourrie, une Renault 5. Je sais pas si ça parle aux gens encore, la Renault 5, si, ça parle
un petit peu.
Et il se trouve qu'elle partait en pièces, cette voiture. Et la portière conducteur était bloquée. Du coup, je passais par la portière passager. Et à l'époque, une copine n'arrêtait pas de me dire « Mais il faut vraiment que tu vois un monde sans pitié. » Chaque fois qu'elle me voyait faire l'équilibriste, l'acrobate à passer par la portière, elle me disait ça. Donc oui, parce que justement, l'extrait, il se fait arrêter par les flics parce que sa portière est bloquée. Donc, lui, par contre, je crois qu'il est obligé de passer par derrière. C'est encore pire, quoi. Donc j'ai fini par voir le film, c'était une révélation. Ouais, justement, c'est un peu le film culte de notre génération, quoi. Enfin, de notre génération. Quand on voit ça à 20 ans, moi j'avais 23 ans, je crois. Ben, on peut que se reconnaître dans ce truc. C'était les années un petit peu post-fac, de flottement un petit peu. Et c'est ça, c'est un éloge du désœuvrement, du rien, ouais, le mec il se lève, il fume son café-clope et puis il va vivre, quoi, il fait rien.
C'est presque du nihilisme parce qu'à un moment il y a cette réplique, on n'est pas sur Terre pour être bien.
Ouais, c'est ça. Ouais,
tout
ouais.
est condamné à l'avance, tout est vu par le prisme de
ouais,
l'échec.
Ouais, c'est un mec hyper désabusé qui prend, il dit ouais, il y a rien à gagner, quoi. On est là, on sait pas ce qu'on fout là. Puis ça ouvre sur un monologue super. Enfin, je l'ai pas retenu parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais en gros il dit qu'est-ce qu'ils nous ont laissé.
Je le laisse si vous voulez.
Ah, je veux bien que vous le lisiez.
Mais je voulais pas la lire vous, je voulais que je la lise moi.
Je vais essayer de la lire, mais je lis pas très bien.
Mais si. Regardez, c'est là, c'est en italique sur ma feuille.
Je fais la voix d'Hippolyte Girardot. Ouais.
Évidemment. C'est en bas.
Oui. Si au moins on pouvait en vouloir à quelqu'un, si au moins on pouvait croire qu'on sert à quelque chose, qu'on va quelque part. Mais qu'est-ce qu'on nous a laissé? Des lendemains qui chantent, le grand marché européen, on n'a que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. Bon, là, c'était une tentative pathétique.
Non, elle était vraiment...
Mais non, vous moquez.
Elle était vraiment pas mal. Désolée. Alors, ce film, je comprends que ce soit une claque cinématographique, mais en quoi c'est un remède à la mélancolie?
Je sais pas, quand je l'ai vu, je crois qu'on alors je dis on, je sais pas pourquoi, parce que je sais pas qui j'englobe, mais un petit peu cette génération. Enfin, moi, je me suis identifié un petit peu comme quand on voit, je sais pas, quand on a 10 ans, on s'identifie, on se fait tabasser dans la cour, mais on s'identifie à Spider-Man, Wolverine. Ouais. Bah, nous, je crois que Hippo, c'était le mec qu'on n'osait pas être, je crois. Nous, on était des lâches, on était hyper maladroits, on était nuls avec les filles. Et lui, c'est le mec qui ose tout, quoi. Qui est là, et tout ce qu'il fait, je sais pas, il le fait avec une espèce d'aisance.
Ouais, de nonchalance.
Ouais, il y a des punchlines incroyables dans ce film, il a une répartie incroyable, alors que moi j'ai aucune répartie, moi, dans les groupes, tout ça, la répartie me vient le soir quand je suis au lit, je me dis merde, j'aurais dû dire ça.
On a du mal à vous croire, parce qu'il y a tellement de punchlines, justement, comme vous dites, dans vos ouvrages.
Ah oui, mais à l'écrit, ça c'est autre chose,
c'est
il y a
très
la distance.
Travaillé.
Ouais, ou pas forcément, non, c'est très improvisé, mais moi j'arrive à travailler quand je suis tout seul, j'arrive à faire des choses, mais en société comme ça, Hippo, c'est typiquement le mec qui a l'aise partout, quoi. Bah d'ailleurs, il a pas de doute sur cette fille qui est à l'exact opposé social, sociétal de lui.
Ouais, cette grande bourgeoise
ouais,
glaciale.
Qui fait une normale sup. Et lui, ça fait aucun doute pour lui qu'il peut y arriver. Quoi. C'est pas un amour impossible. Enfin, je sais pas, une espèce de nonchalance. Ouais. Puis c'est un film hyper romantique. Pour moi, c'est le film romantique type.
On s'en fout de foot, de foot, de foot, éperdument. On s'en fout royalement, on s'en fout totalement. Et l'on goûte, 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 goûte librement la joie d'être content tout le temps. Pour liquider tous les problèmes, croyez-moi, c'est le bon système. On s'en fout de foot, de foot, de foot, éperdument. Puis s'il le faut, prendre son chapeau et foutre le camp.
Le bon système de Maurice Chevalier, pour illustrer l'idée qui vous appuie, Fab Caro, c'est Jean-Louis Trintignant qui l'énonce dans le film Fiesta de Pierre Boutron, sorti en 1995. T'as qu'à t'en foutre. Mais alors, j'imagine que ce n'est pas la même application que vous en faites, vous, puisque dans le film, Jean-Louis Trintignant incarne un colonel un peu sadique qui utilise t'as qu'à t'en foutre pour encourager un soldat à tuer.
Ah, mais je savais pas que ça venait d'un film, en fait. Moi, j'étais tombé là-dessus par hasard. J'étais tombé sur une interview, alors je sais plus où, c'est dans une émission
ouais,
de télé, mais c'était même pas lui, c'était une interview de Samuel Benchetrit.
Ah oui, en effet, ça n'a...
qui racontait cette anecdote à propos de Trintignant, mais ça n'avait rien à voir avec le film. Et du coup, alors l'anecdote, c'était assez rigolo, parce que c'est un ami de Trintignant qui vient le voir, et l'ami, il est complètement dévasté, il est dépressif, et il se confie à Trintignant, il lui dit « Oh, ma femme m'a quitté, je suis malade, j'ai plus de fric, j'ai plus de boulot. » Et Trintignant, il savait pas quoi lui répondre, il lui a dit « Bah, t'as qu'à t'en foutre. » J'ai trouvé ça génial comme réponse. Et outre le fait que ça m'a fait éclater de rire, en plus j'imaginais Trintignant lui répondre ça avec son petit sourire enfantin comme ça, bah, je sais pas, c'est devenu une espèce de phrase culte chez moi. Enfin, ça fait son chemin.
Vous arrivez à vous en foutre ?
Bah, naturellement, non. Au contraire, tout m'affecte. Et justement, j'ai besoin de phrases comme ça. En plus, j'adore Trintignant. Donc, maintenant, dès que je suis, dès qu'un truc me contrarie ou que je suis un petit peu anxieux, j'ai une espèce de petit Trintignant qui vient me dire à l'oreille, bah, t'as qu'à t'en foutre.
Surtout Trintignant qui dit lui-même qu'il aimerait avoir une certaine légèreté, mais qu'il n'en est pas capable, qu'il est assez pessimiste, voire suicidaire.
Ouais, et puis il dit ça toujours. Puis c'est marrant, ouais, parce que j'adore ce mec, parce qu'il dit ce genre de truc avec un petit sourire, toujours un air rieur, toujours. J'adore ça, ce décalage. Et donc, ouais, ça m'aide beaucoup. Par contre, je l'ai essayé en tant que conseil à des amis qui venaient, pareil, se plaindre de soucis de cœur. Je me suis dit, oh, je vais leur livrer la clé du bonheur, le Graal que j'ai.
Ah oui.
Et je leur ai dit, t'as qu'à t'en foutre. Et là,
un échec.
Oui, voilà. Du genre, mais tu me prends pour un con, c'est ça ton conseil? Donc, ça, ouais, ça ne marche qu'avec moi, en fait. Mais chez moi, ça marche pas trop mal.
Non, j'ai besoin de... Si on en est capable, c'est un très bon conseil.
Ouais. Ou alors je l'applique mal, je dois mal le dire, mais les gens me...
Ça a l'air plutôt assez clair, malgré tout.
Ouais, mais j'aime bien, ça résume tout, c'est ouais. Ça, faut prendre les choses avec légèreté, quoi. Après tout, on peut se foutre de tout. J'aime bien cette idée qu'on peut arriver à se foutre de tout.
Il y a un autre adage qui vous accompagne, Fabrice Caro, c'est « Les choses, il vaut mieux les faire que ne pas les faire ».
Ouais, bah ça c'est un truc d'un des six maladifs. Le choix, la notion de choix chez moi, c'est un truc, c'est un calvaire. Dès qu'il me faut faire un choix, c'est un calvaire. Même au resto, quand il faut choisir un plat, voilà, une espèce de tableau Excel qui se met dans ma tête avec pour, contre, avantages, inconvénients, pourquoi les haricots verts. Je finis par prendre un truc pareil comme mon voisin.
Contre les haricots verts.
Et au final, bon, je prends un truc qui me... Mais voilà, quand on est indécis comme ça, on a tendance par réaction à refuser pas mal de... à se mettre en retrait, à refuser pas mal de choses. Et j'ai eu besoin de me dire, ben non, les choses, il faut pas réfléchir, faut se lancer, faut les faire. Et on regrette jamais. Au final, j'ai jamais eu de mauvaises expériences. Les choses, ben c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Moi, ça me tétanisait. Puis je me suis dit, non, ben vas-y, quoi. Les choses, il vaut mieux les faire que pas les faire.
Ben j'en suis ravie. Il y a un peu des échos de votre héros dans Paraplégique, qui est un paraplégique qui se pose jamais la question en fait de savoir s'il peut faire les choses ou pas,
ouais.
Et qu'il les fait de toute façon. Enfin,
oui,
il
voilà.
Les fait
alors,
d'un certain point de
lui,
vue.
Lui, c'est autre chose. Lui, c'est quelqu'un qui est dans le déni complètement. C'est pas une BD sur le handicap, parce qu'on m'a souvent dit, oh, t'as fait une BD sur le handicap, ça se fait pas. Je dis non, c'est pas du tout sur le handicap, c'est sur le déni. En fait, toutes les pages sont sur le déni. C'est quelqu'un qui est handicapé, mais qui veut pas admettre qu'il est handicapé.
Je pense à quelques planches là. On va parler de vos projets puisqu'ils font partie des activités qui vous mettent en joie. Attaquer un nouveau projet, les 10 premières pages, être porté par l'excitation du début et la période de gestation juste avant. Alors j'ai lu dans une interview, il y a eu un succès colossal pour votre bande dessinée Zai 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 et les droits ont été achetés pour le cinéma. Je crois qu'il va être adapté aussi au théâtre. Et il y avait écrit cette phrase, problème, depuis le succès fulgurant, on attend quelque chose de Fabrice Caro et ça ne lui plaît pas.
Oui, oui, oui. Ben oui. Moi, j'aimais bien mon statut. Enfin, je devrais pas dire ça. Ça fait mec qui crache dans la soupe. Mais j'aimais bien mon statut avant Zai Zai. Ça faisait 10 ans que j'avais 30 albums derrière moi. J'avais un petit public qui était pas nombreux. J'avais 3 lecteurs. Non, un petit peu plus. J'avais 5. Ouais, voilà, 5 à peu près. Mais, j'aimais bien ce statut un petit peu dans l'ombre comme ça. Ça me permettait d'un point de vue créatif, ouais, de pas être attendu. J'aime bien l'idée de pas être attendu. Et depuis Zai Zai, c'est vrai que le moindre truc, je me suis collé une pression après Zai Zai que j'ai réussi à évacuer. J'ai fait un album là-dessus qui s'appelle Pause. Mais c'est vrai
sur
que
le manque d'inspiration.
Ouais, sur le manque d'inspiration, sur comment on gère cette histoire, parce que moi, ça correspond pas trop à mon tempérament, que tout d'un coup, toute cette lumière. Bon, cela dit, je suis très content. Ouais, ça fait mec qui se plaint d'avoir vendu des bouquins. Pas du tout, je suis très content, mais c'est vrai que faut arriver à le gérer, ouais.
Vous mettez 3 ou 4 mois pour boucler un album et vous changez régulièrement dans la même journée de projet.
Ouais, j'ai plusieurs 3-4 projets en parallèle parce que je m'ennuie assez vite en fait. Et puis ça permet de travailler en continu. Bah, quand on bloque sur un projet, on peut sauter à l'autre. Et puis même, ça peut faire un effet de vase communicant aussi, des idées qui peuvent venir d'un projet pour l'autre.
Alors quand vous n'êtes pas à votre table de travail, Fabrice Caro, vous aimez traîner dans les vides-greniers le dimanche matin, je vous cite, avec la fraîcheur du petit matin et le ciel bleu, oui c'est assez précis, pardon. Et c'est là que vous dénichez les cartes postales écrites dans les années 70-80.
Ah oui.
Alors pourquoi les vides-greniers et pourquoi les cartes postales écrites dans les années 70-80?
Alors, bah, les vides-greniers, bah, j'ai toujours aimé ça, bah, je sais pas, c'est une espèce de bulle hors du temps. quand on se balade le dimanche matin, on croise des gens qui, j'allais dire, qui n'existent pas dans la vie ici, ils existent, mais...
Mais non, ils n'existent pas, ils sont là que pour le vide-grenier.
Ouais, c'est ça, c'est des figurants, des vide-greniers.
Ouais, des figurants comme dans Figurec, votre roman. C'est ça.
Non, mais je sais pas, c'est une espèce de bulle hors du temps, comme ça, avec des trucs par terre, des gens qui ont très peu dormi, avec des gueules bouffies, le verre de café dans la main. Je sais pas, j'adore cette ambiance-là, tôt comme ça, le matin. C'est même pas pour acheter des trucs, parce que j'achète pas grand-chose au final.
Et les cartes postales?
Et les cartes postales? Oh, j'aurais pas dû dire ça, la honte. Mais alors, les cartes postales, ben, c'est parti d'un truc, j'allais dire, c'est de, non, c'est pas de la nostalgie, parce que moi, je suis pas du tout nostalgique, mais c'est une espèce de Madeleine de Proust, de retrouver des images de vacances des années 70-80. C'est très marqué. Alors, des fois, ça tient à rien, c'est juste une Renault 16 dans le fond, ou un moustachu qui fume. Ça existe plus, les moustachus qui fument.
Si, si, on peut en vous en dégoter quelques-uns.
C'est vrai. Et alors c'est parti comme ça, de aller chercher des images comme ça, comme des petites Madeleine de Proust. Et un jour, j'ai eu l'élan de retourner les cartes postales. Et j'ai vu que derrière, c'était écrit. Enfin, c'est tout bête ce que je dis, mais avant, les gens s'écrivaient. Et s'écrivaient vraiment des choses... Enfin, nous, aujourd'hui, on s'écrit « Coucou, il fait beau, la mer est chaude, on va boire des mojitos ». Enfin, voilà.
Quand il fait beau.
Quand il
ça
fait
dépend
beau.
Où vous habitez.
Oui, voilà, où il pleut. Ou...
Moi, j'écris souvent « c'est terrible, j'ai envie de mourir ».
Mais faut pas l'écrire, faut faire croire aux gens qu'on s'éclate. C'est ça le principe de la carte postale.
C'est pour ça qu'on m'a jamais répondu.
Mais voilà, vous allez vous faire des ennemis. Et j'ai commencé à lire, et c'est passionnant. Et en plus, ils écrivaient des pavés, et c'est pas forcément joyeux tout ce qui s'écrivait. Ils se racontaient des morceaux de vie, machin, tata Gabriel qui est malade.
Vous voulez dire qu'ils allaient à l'essentiel, il y avait une profondeur qu'on retrouvait plus aujourd'hui.
Ils communiquaient en fait, ils s'écrivaient, c'était un moyen de communication. Et du coup, j'ai passé des heures à relire, parce que à force, je commençais à accumuler des cartes postales. Et c'est des morceaux d'intimité, comme ça, d'humanité, à tel point que je voulais presque retrouver des gens qui avaient écrit, partir avec le sac à dos, retrouver ces gens-là. Bon, ils doivent être morts, parce que c'était en 74. Déjà, ils n'étaient pas très en forme sur la carte postale. Donc. Mais voilà.
Vous avez leur bulletin de santé sur les cartes postales.
Bah, c'est ça, on suivait un petit peu l'évolution. Ouais.
Vous avez aussi indiqué dans les activités qui vous grisent, la bière club de 18h. Alors, je sais que vous ne buvez pas d'alcool avant 18h et que vous fumez 3 cigarettes roulées par jour.
Oh là là, mais vous savez tout, c'est horrible.
Non, mais j'ai enquêté.
Oui, ça c'est ma pause du soir, c'est mon petit rituel du soir. Ouais. Ça me pose... C'est même plus que la pause du soir, ça me fait tenir, ça fait le mec alcoolo là qui...
Oh, non, mais... ouais, on l'est tous, vous savez.
Voilà, mais voilà, je sais qu'à 18h, je vais avoir ce moment un petit peu, une espèce de parenthèse enchantée comme ça. Il m'en faut peu, je suis un petit peu comme Balou, mais il m'en faut peu pour être heureux. Mais voilà, ce moment où tout se pose, c'est un petit peu le bilan de la journée, c'est même des fois je me fais des bilans de vie comme ça, avec la clope, la bière clope. Et c'est un moment qui dure, ouais, un quart d'heure, 20 minutes, qui pour moi... C'est magique,
c'est
encore une fois.
C'est une très longue clope, alors.
C'est une, je bois,
elle
je
dure 20 minutes.
Ouais, je l'apprécie, je fais durer. C'est le bon moment de la journée, donc je fais durer.
Bah, Martin Luther, qui n'a pas dit que des choses intelligentes, l'initiateur du protestantisme au 15e, 16e siècle, il a dit « Celui qui boit de la bière, il s'endort vite. Celui qui dort longtemps ne pêche pas. Celui qui ne pêche pas entre au ciel. Ainsi, buvons de la bière. »
Voilà, parfait.
Voilà, je crois que c'est la meilleure chose qu'il ait dite. Dans un instant, on parlera d'un chagrin d'amour et de vin, le temps d'écouter Groupe Mosla. L'amour, c'est mieux.
L'amour. Ça non.
À la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de l'auteur et dessinateur Fab Caro.
La question de l'intimité, pour moi, elle ne se pose pas exactement ces termes. Ce n'est pas simplement il y a des choses privées et des choses publiques, parce que la vie privée est le matériau avec lequel moi j'écris mes histoires. Pour moi, l'intimité, c'est l'intériorité. Ce qui est vraiment intime pour moi, c'est l'intériorité. Et mes livres, je ne raconte pas simplement des choses intimes, je les raconte de l'intériorité. Et c'est ça le plus précieux pour moi. Donc, la question pour moi, elle n'est pas de savoir si c'est intime ou si c'est public. Je pense que c'est une fausse... Enfin, quand on est écrivain ou quand on est artiste, c'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on plonge suffisamment en soi pour ramener quelque chose d'intérieur par rapport à des situations, et qu'elles soient privées ou publiques, c'est pas important.
L'écrivain Grégoire Bouillet en 2009, et d'ailleurs au loin on entend un saxophone je crois, très chic au loin. C'est l'auteur de votre sérum littéraire Fabrice Caro, c'est le roman L'invité mystère paru en 2004 aux éditions Alia. Et alors comment ça commence? Je vous laisse nous raconter l'histoire.
L'histoire, en fait c'est un truc autobio, mais je crois que Grégoire Bouillet a toujours écrit que les trucs autobio. Alors ça commence le jour de la mort de Michel Léris. Alors ça commence comme ça, mais ça n'a pas grand intérêt. Enfin ça n'a pas une place dans l'histoire. Il reçoit un coup de fil d'une ex qu'il a quittée il y a quelques années, je crois, 3-4 ans, et il n'a jamais eu de nouvelles de cette dame. Et d'un coup, il reçoit un coup de fil pour que cette dame l'invite à une soirée d'anniversaire où il doit jouer le rôle d'invité mystère.
C'est la soirée d'anniversaire de l'artiste contemporaine Sophie Calle.
Voilà, c'est ça. Et oui, j'ai lu après coup qu'elle avait pour coutume de faire ce genre de truc, inviter chaque fois un invité mystère.
C'est ça, elle invite exactement le nombre d'invités correspondant à ses années, plus un invité mystère.
Voilà. Et donc, lui est tout emballé, tout excité, enfin, excité en même temps,
furieux.
Effrayé, furieux, parce qu'elle ne l'a jamais recontacté, puis elle l'appelle pour l'inviter à ce truc. Et donc, il va se rendre à cette soirée, en espérant que tout va reprendre comme avant. Enfin, et alors, c'est super bien écrit, c'est une écriture virtuose. Et surtout, c'est très drôle. Enfin, c'est pas une écriture, c'est pas une drôlerie ostensible. Je sais pas, c'est une drôlerie d'écriture. Mais moi, je trouve ça très drôle.
Il y a un désespoir profond dans ce livre. Par exemple, tout au début, quand il a ce coup de fil de son ex, il dit « Elle aurait cru je ne savais quoi que je voulais justement qu'elle ignore. Et non, ma vie n'était pas devenue un long sommeil et je ne passais pas mon temps couché et gisant en moi-même depuis qu'elle m'avait quitté. » Alors qu'en fait, si.
Ouais.
Et puis après, il a la fatalité des soupules à col roulé.
Oui, ce passage est génial.
La fatalité des soupules à col roulé s'était emparée de mon existence et même abattue sur moi. Et plus jamais je n'avais éprouvé la sensation du vent sur mon cou, indissociable de celle de la liberté. Il y a des répétitions à la Thomas Bernard, comme dans des arbres à abattre, où il n'arrête pas de répéter « me dis-je » dans le fauteuil à oreille, ça revient comme ça, comme une litanie. C'est un héros romantique. Il se rend presque christique et il achète pour cet anniversaire, parce qu'il veut flamber, littéralement, il veut montrer sa noblesse, il achète une bouteille de Château Margaux 1964 qui vaut l'équivalent de son loyer.
Oui, il se pose la question du cadeau amené. Alors pour lui, il lui semble que c'est le cadeau ultime, c'est cette bouteille de vin qu'il va offrir à Sophie Calle. Et puis, je crois qu'il est un petit peu déçu par la réception du cadeau, qui n'est pas aussi extraordinaire que ce qu'il attendait.
Bah c'est pire que ça, c'est qu'il va se décomposer, puisqu'on lui annonce que Sophie Calle n'ouvre jamais ses cadeaux,
oui,
qu'elle les garde pendant des années pour en faire une œuvre d'art.
C'est ça, oui. Et donc, c'est la bouteille qui orne la couverture du livre.
et là, il dit « J'avais envie d'éclater de rire et de me décrocher la mâchoire et les dents et les yeux et les os. Et finalement, je voulais éclater une bonne fois pour toutes et qu'on n'en parle plus.
» Voilà.
Vous avez choisi un extrait à nous lire, Fabrice Caro.
Ouais, j'ai pris un extrait un petit peu au hasard, parce que tout est bien. Mais alors, je lis super mal. J'ai peur de miniaturer le texte. Vous voulez pas le lire à ma place? Je sais pas si ça se fait.
Non. Mais alors, j'ai déjà pas mal lu, parce que vous m'avez un peu dit ça hors antenne. C'est pour ça que j'ai pas mal lu, mais j'aimerais bien vous entendre. C'est si vrai. Vous voulez pas, je le fais à votre place.
Non,
mais je vais
mieux. Tenter, mais je risque de massacrer le texte.
J'espère que vous allez le massacrer.
Faudra.
Sinon, on sera très déçus.
Alors. Faut que je mette mes lunettes. Non, c'est pas vrai, j'ai pas de lunettes. Alors. Mais il ne serait pas dit qu'après avoir surmonté sa disparition, je ne pourrais surmonter sa réapparition. Je refusais d'abdiquer. Absurdement. Instinctivement, je voulais comprendre. Et il ne me restait plus que ce désir-là, comprendre. Et ce désir était tout ce qui me maintenait encore debout et humain. Lorsque je réalisais tout à coup qu'elle m'avait appelé un dimanche, en fin d'après-midi, et qu'elle m'avait quitté un dimanche au beau milieu de l'après-midi. Ce ne pouvait être une coïncidence. Immédiatement, je sus qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. C'était impossible. Il s'agissait d'autre chose. C'était trop beau, je n'en revenais pas.
L'invité mystère, Grégoire Bouillet, il voit des signes partout. Ça vaut vraiment le coup. Là, il vient de publier 1700 pages magistrales.
Ouais, le dossier M, un truc en deux livres, livre 1, livre 2.
Chez Flammarion.
Et j'en suis à la moitié du livre 1. C'est une histoire d'amour. Il a décidé de raconter une histoire d'amour. Mais il part du principe que si on raconte une histoire, il faut tout raconter. Donc tout ce qu'il y a avant, tout ce qui a fait ce qu'il est. Moi, je trouve ça assez passionnant.
Fabrice Caro, vous êtes l'auteur d'un roman publié chez Gallimard qui s'appelle Figureg, qui a été adapté en bande dessinée par Christian Demeter. Et j'ai lu qu'il y avait un second roman en préparation. Et l'intrigue, c'est un livre où il ne se passe rien.
Oh là là, mais vous savez tout.
Ouais. C'est vrai?
Oui, oui. Mais oh là là, est-ce que je dois en parler? Parce que je suis en train de le boucler.
Non,
en
alors
fait.
N'en parlez pas.
Je vais alors.
Mettez toutes les chances de votre côté.
Ah, oui, je suis assez superstitieux. Non, ouais. Normalement, ça se fait, mais je suis en train de le boucler là. Mais en fait, c'est. J'ai pour rituel de tous les étés, j'écris un roman, un début de roman.
Que vous ne finissez pas.
Que je finis pas, parce qu'après, je me lasse. Puis après, la rentrée arrive avec son lot de. Et je passe à autre chose. Et là, il se trouve qu'à la rentrée, un éditeur m'a dit: tu as pas un truc sous le coude? Et j'ai dit: bah si, j'ai ça. Du coup, ça a été une carotte, ça a été l'occasion de continuer. Et voilà.
Bon, alors on passe au remède suivant, comme ça ouais. On n'est pas trop impudique sur l'état de démiurge fulminant dans son atelier. C'est la citation d'un des parrains de l'émission, Cioran. C'est une seule chose importe, apprendre à être perdant. C'est tiré de L'inconvénient d'être né, publié en 73. Donc Cioran a 62 ans, il a eu le temps de vérifier. Comment vous l'entendez-vous, cette citation?
Moi, je la vois super positive. Je la vois super... d'un optimisme fou, cette citation. pour moi, c'est un outil de. On parlait tout à l'heure des outils de vie, de survie. Et je sais pas, la vie, c'est un truc. C'est tragique, quoi. On est propulsé là, on n'a pas demandé à naître, on va mourir, on s'attache à des gens qui vont mourir, nos enfants vont mourir. Ça il va y avoir une crise de dépression là, de 11.
Nos chiens vont mourir. Voilà.
Non, mais du coup, il faut des outils de survie. Et ça, je trouve que c'en est un. On se dit, on va rentrer dans. On va rentrer dans la vie, ça va être terrible, on va en chier, ça va être dur. On va avoir des échecs, on va être médiocre, on va pas réussir, on va se casser la gueule. Mais si on intègre ça, une fois qu'on l'intègre et que ça fait partie de notre... la vie, ça peut être assez rigolo, quoi.
Mais que ça ne vous empêche pas d'avoir non plus un ou deux succès dans cette vie ponctuée d'échecs.
Ouais, non,
même pas.
Non, même pas. Non. faire avec les échecs. Je trouve ça. C'est pour ça que je trouve ça assez. Apprendre à être perdant, c'est-à-dire les échecs, on les intègre. Ça fait partie de la vie. Et puis à côté de ça, je trouve ça que la vie, c'est assez rigolo. Je sais pas si Cioran l'a dit dans ce terme. Je pense pas qu'il ait dit le terme rigolo. C'est pas le genre de la maison.
Non, c'est pas le genre de la maison. Bien qu'il soit lui-même très rigolo.
Ah ouais.
Ouais.
Ah, je le voyais comme un type plutôt austère.
Il est très très drôle.
D'accord.
Ouais. Il a aussi écrit « Vivre, c'est perdre du terrain ». Enfin voilà, c'est toujours un peu dans l'idée que vous soulevez, Fabrice Caro. Mais vous avez-vous réussi à apprendre à être perdant?
Instinctivement, je crois que quand j'ai lu cette phrase, oui, c'était à l'époque, ouais, dans le recueil, il y avait tout un tas d'aphorismes. Pourquoi celui-là m'a marqué? Ça a trouvé une résonance. Je crois qu'instinctivement, d'ailleurs, dans tous mes bouquins, un truc qui est assez récurrent, c'est l'autodérision. Ça, pareil, c'est un petit peu ça. C'est une forme d'apprendre à être perdant, quoi. C'est soit perdant toi-même avant qu'on te fasse perdre. Non, c'est n'importe quoi, mon truc. Mais voilà, en gros, c'est ça, quoi. C'est partir perdant pour ne pas être... ne s'attendre à rien, quoi, en fait. Et du coup, on apprécie beaucoup plus les choses, je trouve. Je sais pas si je suis très clair.
Si, ça va, ça passe. Vous me paraissez assez clair. Bon. Je pense que les auditeurs opineront d'accord. Du chef terriblement. Bon. Voici la voix de l'auteur de votre autre citation consolatoire.
Je ne refuse pas les rôles. J'en ai trop demandé, la vérité. C'est ça qui m'embête. Hein. C'est que maintenant, chaque fois, j'ai tellement manqué finalement à certains moments de ma vie que chaque fois que je ne fais pas quelque chose pour des raisons bon, disons-le, ce qu'on croit être la stratégie professionnelle, alors que je n'y crois pas du tout à ça. Parce que la vie vous dirige quand même, hein. Et ben, je me dis toujours, je vais peut-être demain me retrouver dans la rue et je dirai aux gens, je suis celui qui a refusé tant d'argent.
Jean Carmet, dans Radioscopie de Jacques Chancel en 1976, vous avez choisi cette citation. Celui qui dit qu'il est arrivé, c'est qu'il n'est pas allé bien loin. Ça ressemble à une brève de comptoir.
Ouais, je crois que j'avais vu ça. Alors, ouais, c'était à l'époque dans
Palace.
Dans Palace de Ribes, je crois que c'était ça, oui. Ouais. Et pareil, je suis tombé là-dessus, ça m'avait parlé. Moi qui suis pétri de doutes, qui doute de tout. À une époque, c'était un véritable handicap, ce doute. Je me dis, mais c'est pas possible de toujours douter de son boulot, douter de tout. Et puis finalement, j'ai réussi à l'apprivoiser, et même au-delà de ça, à l'apprivoiser et à ce que ce soit nécessaire. Le doute, finalement, c'est moteur. Quoi.
Vous arrivez à choisir plus rapidement au restaurant ?
Non, toujours pas. Non, non. Non, non, ça non, pour le coup.
Mais vous arrivez malgré tout à passer au-dessus de ce doute permanent, puisque sinon vous n'auriez pas fait tous ces albums.
Ben, je m'en sers. Au contraire, je me dis que si j'avais plus ce doute, je pourrais plus... Ben, il faudrait que j'arrête. Moi, j'appréhende le jour où je prendrai un de mes bouquins, où j'aurai fini un bouquin, je me dirai, ah, oh, c'est super, j'ai fait un truc super. Ça m'est jamais arrivé. J'espère que toute ma vie, je trouverai que mes bouquins sont mal foutus, qui sont pas aboutis. Je me dis, l'aboutissement, c'est terrible. C'est terrible de réussir. On fait quoi après une fois qu'on a réussi, quoi? On peut mourir, quoi.
Mais c'est vrai. Autant mourir avant.
Ben oui. Donc, ouais, je me dis, tant qu'on est dans le doute et qu'on n'est pas arrivé, ben voilà, c'est ce que dit Carmé. Si on est arrivé, c'est qu'on n'a pas... J'aime bien l'idée de continuer à creuser, à rester dans le doute.
Il est l'heure d'écouter les morceaux qui vous empêchent de sombrer totalement. Fabrice Caro, voici le premier.
We'll be right back.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec l'auteur et dessinateur Fabrice Caro qui a choisi de nous faire entendre ce morceau de 2003, Reptilia du groupe américain The Strokes, dont les dernières paroles sont très énigmatiques puisque c'est « I'm not drowning fast enough », je ne me noie pas assez vite.
Ah d'accord, mais voilà, j'écoutais pas, je suis nul en anglais, donc c'est surtout la musique que j'aime
bien. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce morceau?
En fait, je suis passé complètement à côté de des Strokes quand c'est sorti. C'était au début des années 2000, toute cette vague de groupes à guitare, les Libertines, tout ça. Et moi, j'adorais les Pixies, les Sonic Youth, tout ça, donc j'étais hyper exigeant. J'ai fait le snobinard, je dis, mais ils apportent rien, c'est quoi ce... Donc j'avais balayé ça d'un revers de main, très snob, je dis, à part les Converse et les cheveux décoiffés, qu'est-ce qu'ils apportent? Et l'été dernier, je suis tombé sur un concert des Strokes aux Eurocaennes, une vidéo, et je suis tombé fou amoureux de Julien de Casablancas, le chanteur. Il a une super voix, non? Vous aimez pas?
Si, si.
Vraiment. Et j'ai tout réécouté, j'ai retrouvé cet état de fan qu'on a tendance à perdre avec l'âge. J'ai mis des posters dans ma chambre et tout. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, mais cet état de aimer quelqu'un, un groupe comme ça, j'aime bien cet état de fan qu'on perd avec l'âge, oui.
Surtout que vous êtes vous-même musicien, Fabrice Caro, puisque en 94, vous faites le groupe de rock Harry Homme.
Oh non.
si, j'ai retrouvé des morceaux. Et puis, vous faites aussi un album en 99 qui s'appelle Les Amants de la rue Sinistrose, au sujet duquel vous dites dans une interview, ah oui, Les Amants de la rue Sinistrose, un grand moment de poilade pour les dépressifs suicidaires. Donc ça m'a évidemment parlé. Et puis, vous avez aussi un autre groupe qui s'appelle Sherpa.
Oh là là, les dossiers,
avec
oui.
3 H.
C'est ça.
On peut vous voir en concert quelque part.
Vous êtes allé... Ah non, surtout pas. Je suis un phobique des concerts. Mais moi, j'adore la musique, mais je suis trop timide et émotif pour faire des concerts. Mais c'est pour ça que j'ai pas continué. Moi, j'étais un passionné de musique.
C'est vous, John Pantoufle?
Non, moi, je suis Crof Savis.
Crof Savis, d'accord. Crof Savis et John Pantoufle.
Pour l'anecdote, Crof Savis, c'est quand... Bon, je sais pas si ça a trop d'intérêt, mais ma fille, quand elle était petite, on jouait à des jeux de rôle au Playmobil. Et pour dire pauvre Fabrice, parce qu'il m'arrivait toujours dans ces histoires, il m'arrivait toujours des tuiles, elle disait oh, Crof Savis. Et du coup, mais c'est génial, ça prend un pseudo. Et j'ai gardé Crof Savis. Je fais les trucs sous pseudo, sous Crof Savis.
Oui, mais vous êtes difficile à trouver, musicalement.
Bah, ben, je fais tout pour.
Ouais. Pour. Bon, bah, je suis désolée, là, je sais râper.
Oui, ça, c'est les dossiers, faut pas les ressortir, c'est la honte.
C'est râpé.
Et à quoi ça sert? À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir? Qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère?
Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire, qu'on me libère, qu'on me repère, qu'on me dise si je viens ou si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir.
2013, Le Rempart, interprété par Vanessa Paradis et Benjamin Biolay. Les paroles sont de Mathieu Bogarts. C'est le soulagement d'une rupture amoureuse attendue. C'est lié à un souvenir, ce morceau?
Non, pas forcément. Moi, j'aime bien les chansons d'amour foireuses. Mais là, pour le coup, j'ai pas tellement joué le jeu du remède à la mélancolie. C'est presque l'inverse. C'est le remède à la non-mélancolie. C'est ce genre de morceau, justement, que je vais chercher pour aller titiller un petit peu. Je le trouve super triste. Chaque fois, ce morceau, je sais pas, il me rend, mélancolique. J'aime bien.
Et ça vous enchante?
Ah, j'adore ça.
Basically, I'm asking you to look at time go by. I mean, the clock is very much about death in a way. It is a memento mori. You know, the narrative gets interrupted constantly, and you're constantly reminded of what time it is, so you know exactly how much time you spent in front of the clock. This is like you're on your own terms. You decide when to enter it and when to leave it, and how much time you want to spend there.
L'artiste suisse et américain Christian Marclay, au sujet de l'œuvre que vous avez choisie, Fabrice Caro, elle a été réalisée en 2010, c'est The Clock, l'horloge, qu'il compare à un memento mori, une œuvre qui parle de la mort finalement. C'est une installation vidéo qui dure 24 heures. Et en quoi consiste-t-elle?
Je comptais sur vous pour l'expliquer parce que je vais être très brouillon. Alors,
vous voulez que je vous...
Je vais tenter de l'expliquer.
Oui,
puis, alors, c'est un collage, c'est un patchwork d'extraits de films. Sur toute l'histoire du cinéma, et c'est en temps réel, et sur chaque plan figure une horloge, ou enfin un indicateur de temps en tout cas, en temps réel, c'est-à-dire que si vous regardez le film à l'heure 10h02, bah, il y aura quelque part une horloge qui indique 10h02 à la seconde près. Ça va, c'est assez clair,
ouais.
J'ai expliqué.
C'est un film en temps réel, c'est une mise en abîme du temps.
Et je trouvais ce concept fascinant. Enfin, je suis tombé là-dessus en lisant un roman en fait de Ben Lerner qui s'appelle 10h04. Et le titre est une référence directe à The Clock. 10h04, c'est l'heure à laquelle l'horloge de Retour vers le futur est arrêtée par la foudre. Donc, Et donc, dans le film, à 10h04, il y a l'horloge de Retour vers le futur. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est génial, c'est cette idée, ce concept. Je me suis rué sur Internet pour essayer de trouver des extraits de ce truc.
Donc vous l'avez vu sur Internet?
Mais que des extraits, j'adorerais voir. Enfin, je crois que je tiendrai pas les 24 heures, mais j'adorerais voir le truc. Mais les extraits, c'est fascinant.
Et en même temps, c'est assez angoissant. Vous qui êtes un être qui vous décrivez comme angoissé, il y a quelque chose d'assez anxiogène.
Ouais, mais en même temps, il y a un côté tellement, je sais pas, millimétré, comme ça, et carré.
Parfait, presque mathématique.
Ouais, qui compense un petit peu, oui.
Bon, alors on termine sur ça. Oui, on a peur de la mort, mais non, il y a des œuvres d'art. Ça vous va comme conclusion?
Super, ça me va très bien.
Merci beaucoup Fabrice Caro d'être venu dans cette émission. Votre planche dessinée Open Bar est à retrouver chaque semaine dans Les Inrocks. Aux éditions Six Pieds Sous Terre sont parus alors le mois dernier En attendant, l'ouvrage que vous avez réalisé avec Gilles Rochier. Et en novembre dernier, votre désopilant pastiche de romans photo dessinés Et si l'amour s'était aimé. À venir le 23 mai chez Glénat, la réédition de Jean-Louis. Et un nouvel album, Moins qu'hier, plus que demain. Le 25 mai chez Dargo, Zéropédia volume 1, tout sur tout et réciproquement, avec les dessins de Julien Solé. Je rappelle également le titre de l'album Zaï 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 aux éditions Six Pieds Sous Terre, qui avait été choisi comme remède à la mélancolie dans cette émission par Philippe Gueluc et qui devrait bientôt être adapté au cinéma ainsi qu'au théâtre. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a la limpidité d'une encre invisible. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du réalisateur Michel Oslo.
C'était Remède à la mélancolie. Merci Eve Bester et à la semaine prochaine.